exclusivement le cinéma, mais aussi les séries. Dans N'oubliez pas l'ouvreuse, c'est tout de suite sur Radio Présence. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Bon Laurent, vous avez une petite mine.
Oui.
Bon, vous allez tenir une heure ?
Oui, on va tenir, oui.
Oui, parce que vous avez plein de bons conseils à nous donner, et en particulier les films à voir à la télé.
Bah, c'est vrai qu'avec ce temps très Mossad,
ah oui, c'est le moins
on dit en Israël,
dire.
C'est un temps Mossad.
Effectivement c'est, aussi.
Ça donne envie d'aller au cinéma, donc ça tombe bien, on est là pour ça, pour vous conseiller des bons films. En plus, il y a pas mal de sorties, mais il y a du bon et du mauvais, on vous en dira plus tout à l'heure. Et puis on peut rester à la maison tranquillement au chaud. On peut regarder un match de foot, mais on va pas s'épiouser dessus. Et il y a aussi du foot. Bah, il y a aussi, pour ceux qui n'aiment pas le foot ce soir, ou qui n'ont pas les chaînes qu'il faut, il y a des bons films. Et donc, je vais vous conseiller 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et on peut aussi éteindre tous nos écrans. Et à ce moment-là, il y a un conseil de lecture sur le cinéma.
On aime vos conseils de lecture, Laurent. On a une foule de messages justement à propos de ça. Pardon, je tournais la tête et j'ai oublié que le micro lui ne tournait pas la tête.
Il suit pas la bouche.
Effectivement. Avec nous également, il est là, notre spécialiste de la mécanique cinématographique qui va, dans son retour de manivelle, nous parler d'un bel objet, n'est-ce pas ?
Et bonsoir. Guillaume Sidom. Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, un monument du cinéma aux 11 Oscars, peut-être comme 11 footballeurs ce soir, on sait jamais. Ils n'auront pas tous le ballon d'or, mais enfin voilà. Je reviens au cinéma à la fois film biblique, péplum, film d'action et d'aventure.
Oh là 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 là, quel programme, quel programme. On continue notre état des lieux, si on peut dire ça comme ça, du panier de l'ouvreuse, avec la chronique de notre ami Grégory Com, notre homme de loi des séries, qui dans son tribunal nous parlera ce soir de Ken le survivant, qui est de retour près de 40 ans plus tard Amazon Prime, avec un remake intitulé Fist of the North Star, Okuto no Ken.
Vous savez pourquoi Okuto no Ken ?
Non, expliquez-nous.
Parce que c'est l'héritier de l'école d'arts martiaux Okuto. C'était son... Voilà. Oui. C'est son prénom et Okuto no Ken.
Exactement, mais... exactement, oui. Nous vous croyons sur parole, cher Guillaume. En tout cas, en français, c'est devenu Ken le survivant. Ouais. Voilà. C'est toujours pareil. On va pas revenir sur la traduction des titres, que ce soit des séries, des animés, des films. Mais, bien, c'est pour donner... une idée en tout cas aux spectateurs et aux téléspectateurs français de ce qu'ils peuvent s'attendre à voir en regardant Ken le survivant, en tout cas Fist of the North Star, Okuto no Ken. C'est la préoccupation de Grégory Com ce soir dans le panier des séries, dans le panier de l'ouvreuse. Les séries c'est terminé, mais dans le panier de l'ouvreuse vous retrouverez l'affiche de la semaine scrutée attentivement par Laurent. Il vient de vous en toucher un mot, mais il est évidemment aidé par l'ouvreuse. Et puis on parlera des reprises sur le grand écran et bien on aura toujours des coups de cœur à vous partager. Et en tout cas, on aime bien vous conseiller des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis quoi ? Ben on est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous livre, voilà, je l'ai sous les yeux, le contenu d'un mail que nous avons reçu de la part de Martine. et je vous le lis tel qu'il est. Bravo aux chroniqueurs de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission sur le cinéma. Que cette émission dure le plus longtemps possible. Un grand merci. Nous l'embrassons.
Merci Martine.
Merci. Fort et nous la remercions de ses encouragements et on est content que nous sommes contents que N'oubliez pas l'ouvreuse lui plaise.
Et si elle veut venir à l'émission, elle est la bienvenue.
Évidemment, 4 rue des Feuillants, 31 300, Toulouse, c'est l'adresse de la radio. La comédienne Claire Monnier, eh bien, s'est éteinte lundi 4 mai à 97 ans. Alors, Claire Monnier, le nom ne vous dit probablement peut-être pas grand-chose, et pourtant, c'est un visage que vous connaissez bien parce que vous l'avez vu beaucoup à la télévision, mais en 59, quand même, un certain François Truffaut lui demande d'incarner la mère inconstante d'Antoine Doinel, de Jean-Pierre Léo, oui, tout jeune acteur à l'époque. Elle apparaîtra ensuite dans La cuisine au beurre, entre autres. Hein, je n'ai pas la liste exhaustive des films dans lesquels elle a joué, parce qu'il y en a un grand nombre. Mais La cuisine au beurre, donc, en 63, elle est l'épouse provençale bigame. Rappelez-vous, Bourville et Fernandel qui se disputent une cuisine, un restaurant
oui.
Et en fait, il y en a un qui revient après avoir disparu et il se rend compte que le restaurant n'est plus à lui et que sa femme a un autre mari, alors que ils sont toujours mariés. Elle apparaît aussi dans Merveilleuse Angélique de Bernard Bordery, ça c'était en 65. Elle est en 80 Madeleine, une femme séduisante mais vieillissante dans Un mauvais fils de Claude Sauté aussi, qui lui vaut d'ailleurs d'être nommée au César comme meilleure actrice dans un second rôle, en 1981. Et puis, elle se consacre quand même beaucoup plus à la télévision qu'au cinéma, mais on continue à la voir apparaître à l'écran. Elle est notamment une bistrotière parigote dans le fameux Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Oui, exact.
De Jean-Pierre Jeunet. Et puis, on lui fait un dernier clin d'œil avec ce rôle. Ah, qu'est-ce qu'on l'a aimé dans ce rôle-là. C'est la mère, Revêche, dans Un air de famille de Bacri, d'Agnès Jaoui. Et ils ont un grand frère. On la retrouve là, au moment où elle donne les cadeaux.
Ah, voilà. C'est un bon pour
retirer.
Un bon pour retirer un chien au chenil Les Pas Perdus, 57 boulevard des Parloirs, 45 000. C'est ça? Vous m'offrez un chien? Mais merci beaucoup, hein, madame. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'entretient?
Tu l'arroses une fois le matin, je crois.
Ça te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de
chien. Surprise.
Oui, voilà, je suis surprise, non, mais...
Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens.
On dirait le chien d'Henri.
C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race.
Ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui marche plus. Hein. Et c'est le seul problème avec ces chiens. C'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Moi, Caruso, il...
Elle sait choisir les cadeaux qui font plaisir. Claire Monnier, disparue donc lundi 4 mai, il y a deux jours seulement, à 97 ans. On pense à elle.
Shark and Vine. para la vida solo tutto il mondo io ne dimesso anta habibi.
C'est Philippe Edel qui a composé la musique et la chanson qu'on entend en ce moment pour Un air de famille de Cédric Lapiche. Je suis attendu chez mon opticien pour avoir des lunettes toutes neuves puisque j'ai mal lu mes notes et il ne fallait pas entendre Claire Monnier mais Claire Maurier, mais vous aviez fait la correction, bien sûr. Qu'elle me pardonne, Claire Maurier.
Lass mich allein mit dir in unter Habibi.
On va regarder un autre film, mais alors un grand classique. Tout de suite, installez-vous confortablement. Et là, c'est beaucoup moins drôle que ce que nous venons d'entendre.
La gloire de Salomon est éteinte, crois-tu qu'elle renaîtra? Il n'y a plus de Josué pour vous sauver, ni de David. Il n'y a qu'une seule réalité dans le monde d'aujourd'hui. Tourne les yeux vers l'ouest. Ne sois pas stupide, regarde vers Rome.
J'aime mieux être stupide que d'être un traître ou un assassin.
Je suis un soldat.
Oui, un soldat qui tue pour Rome. Et Rome est le mal.
Je t'avertis.
Non, c'est moi qui t'avertis. Rome est une offense à Dieu. Rome étrangle mon peuple, ma patrie, l'univers entier. Mais cela finira. Et je te le dis, lorsque Rome s'écroulera, de la terre retentira une immense clameur qui s'élèvera jusqu'aux cieux.
Ils étaient frères pourtant, ou presque, puisqu'ils se connaissent depuis l'enfance, depuis longtemps, 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 même s'ils n'ont pas les mêmes parents. Et cette dispute va sceller une brouille définitive. Il me semble bien, non, Guillaume Sidom?
Oui, je crois bien, Louis-Marie. On ne peut rien vous cacher. Ben-Hur, film de William Wyler de 1960, adaptation du roman de Lewis Wallace de 1880, lui, avec évidemment Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, et si... La vengeance avait le goût du sable, du sang et de la rédemption. Ben-Hur n'est pas simplement un film, c'est une fresque, une œuvre gigantesque à la démesure hollywoodienne. 224 minutes pour ce mastodonte de tous les superlatifs. Longtemps, le film le plus primé de l'histoire, hein, 11 Oscars, d'autres chiffres vertigineux, monuments historiques. Imaginez, 78 jours de tournage dédiés uniquement à la scène des chars, Charlton Heston en jupette de cuir pour l'éternité, 14 millions de spectateurs en France, 85 millions de téléspectateurs pour sa première diffusion télé. Après les chiffres, voici l'histoire. Jérusalem, au 1er siècle, le tribun romain Messala, commandant de la garnison de Jérusalem, rend visite donc à son ami d'enfance, Judas Ben-Hur, dernier descendant d'une noble famille juive. Et ce dernier prince romain d'origine juive, justement adopté par une influente famille, est accusé à tort de trahison par Messala. Déchu de son titre, séparé de sa famille et de la femme qu'il aime, Judas est réduit à l'esclavage et après des années en mer, Judas revient sur sa terre natale dans le but de se venger. Il va y rencontrer son destin. Tout maintenant les sépare.
Oui, mais réduire Ben-Hur à une simple histoire de revanche ou de vengeance serait passer à côté de sa puissance.
Car derrière les chars lancés à pleine vitesse dans l'arène se cache un récit sans doute profondément humain, même c'est sûr, celui d'un homme brisé, confronté à la haine et à la possibilité du pardon. Et au centre de tout cela, une question universelle, peut-on vraiment se libérer de la vengeance? Vous savez tout sur ce péplum biblique aux 11 Oscars, réalisé avec des moyens gigantesques, 15 millions de dollars de budget, rendez-vous compte, cela fait 130 d'aujourd'hui, 14 mois de tournage, 100 000 figurants, qui du mieux, tout et son contraire.
On a même pris Wyler pour un auteur broyé par la machine hollywoodienne.
Et dont on ne reconnaîtrait la patte que dans les morceaux de bravoure. Or, en 1959, sa carrière déjà bien entamée, il peut se permettre de ne pas réaliser lui-même la fameuse course de chars très documentée. Ben-Hur a une double nature, grand spectacle populaire et récits édifiants. Revus aujourd'hui, il laisse cependant peut-être une impression de lenteur due à l'intérêt pesant que William Wyler porte au personnage. Tout est exposé, théâtral, démonstratif. Par ailleurs, le spectaculaire du film aujourd'hui dépassé est nettement éclipsé par son aspect religieux. L'indéboulonnable, classique de 1959 a une durée impériale de 3h44 et figurez-vous qu'il est un remake de 1925. Avec, il y a plus de 100 ans donc, une course de chars en noir et blanc qui est franchement haletante. Alors oui, vous n'entendez certes pas dans l'arène les cris, les crissements, les hennissements, les roubroyés, car le premier Ben-Hur est muet. Mais il y a déjà 40 caméras pour le combat de chars. La mythique course de chars nécessite donc 3 mois de tournage, dont une partie est réalisée par Sergio Leone, 5 ans donc avant sa trilogie du dollar. Ben-Hur, c'est plus qu'un classique, c'est une leçon de cinéma et peut-être même une leçon de vie, parce qu'au bout de la course, la plus grande victoire n'est pas toujours celle qu'on croit. À méditer et à retrouver au Pâté Wilson de Toulouse ce samedi 10 mai 13h dans le cadre de la rétrospective consacrée aux Oscars. Également visible pour ceux qui ont la chance d'avoir TCM Cinéma ce vendredi 8 mai à 14h35 en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon et surtout, allez au cinéma.
C'est Miklos Rocha qui a composé la musique de Ben-Hur de William Wyler. Et là, vous entendez évidemment le thème principal.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
J'étais en train d'essayer d'écrire un scénario que j'ai.
Quand ça ne va pas, quand ça ne veut pas aller, ça ne va pas. Continuons donc avec l'actualité de la semaine. Laurent, vous scrutez donc l'affiche, les nouveaux films qui sont dans tous les cinémas que vous fréquentez cette semaine.
Tout à fait. Avec « C'est quoi l'amour ?» Vaste question. Fabien Gorgeard essaye d'y répondre avec son nouveau film. Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Léa Salem et Jean-Marc Barre, en curé. C'est l'histoire de Marguerite qui n'a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l'église. Elle est même heureuse d'apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne. Et pour démontrer aux autorités ecclésiastiques que leur union n'avait aucune raison d'être, les ex-époux s'embarquent dans une enquête sur leur propre passé, ce qui ne manque pas de faire ressurgir des sentiments qu'ils croyaient éteints depuis longtemps. Alors comment faire famille ? Vaste question. Et cette question, d'ailleurs, traverse le cinéma de Fabien Gorgeard depuis son premier long-métrage, Diane à les épaules, où il racontait la révolution en marche des modèles familiaux modernes. En 2021, dans La Vraie Famille, on suivait une famille d'accueil qui voyait le petit garçon qu'ils avaient accueilli à 18 mois repartir vivre avec son père biologique. Et dans son troisième film, il s'appuie donc sur une situation de départ inattendue. Fred va demander à son ex-femme Marguerite, des années après leur séparation, d'obtenir la nullité de leur mariage à l'église. Et sa nouvelle compagne, Chloé, une catholique fervente, veut se marier devant Dieu. Et pour cela, il a besoin de cette précieuse annulation. Alors si l'émotion est toujours là, jamais Gorgeard n'avait poussé aussi loin le curseur de la comédie, sans verser dans la facilité de la charge anticléricale, tout en montrant à l'inverse jusqu'à quelles extrémités les autorités du clergé peuvent aller pour obtenir cette nullité. Et là où le film touche juste, c'est dans sa manière de s'aventurer sur le terrain de l'intime, cette enquête sur leur passé faisant ressurgir chez les vieux amants des sentiments qu'ils croyaient éteints depuis longtemps, comme je l'ai dit, vous savez, la fameuse chanson de Jacques Brel, hein, ce fameux volcan qu'on croyait éteint. Aussi pertinent dans sa description des adultes que des ados, hein, puisque c'est une famille recomposée, c'est quoi l'amour se vit comme une valse générationnelle, faisant résonner les premiers emballements du cœur aux incertitudes qui vous assaillent lorsqu'on se pensait sincèrement engagé pour le reste de sa vie. Le tout porté par un casting sans faute, hein, vraiment très bons acteurs, avec le trio Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry en tête, qui fait oublier les baisses de régime parfois régulières de cet hymne au vivre ensemble, dénué de toute facilité démagogique. Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Fabien Gorgeard.
Et la question qu'on avait envie de lui poser, qu'on a envie de savoir, évidemment, comment il a eu l'idée cette histoire. Pourquoi a-t-il choisi de raconter cette histoire? Je vous propose tout simplement d'écouter sa réponse.
J'étais en train d'essayer d'écrire un scénario que j'arrivais pas à aboutir. Mon producteur, qui me connaît très bien, a entendu parler de ces histoires de procès en nullité. Il m'a dit, écoute, regarde ça, je pense que toi, tu vas en faire quelque chose. Je le sens, c'est pour toi. Et ça n'a pas raté, c'est comme s'il avait appuyé sur on. Je me suis renseigné sur la question, j'ai fait un travail d'enquête, j'ai rencontré des prêtres, des avocats ecclésiastiques, parce que déjà, moi, je suis très sensible aux questions de la religion, mais comme une sorte de terrain de jeu poétique, de questions. C'est pas forcément un endroit personnel. J'ai été très croyant enfant, je le suis plus, clairement. Mais par contre, j'ai toujours été sensible à ce que ça m'amenait comme réflexion, comme amusement aussi. C'est un endroit où je trouve que c'est aussi profond que ridicule, presque. Et ça, je trouve que ça m'inspire profondément. Et je me suis dit que le procès, ça va être un endroit idéal pour continuer à interroger ce que j'ai fait dans mes deux autres films. La famille, les liens, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient. C'était le carrefour de tout ce qui pouvait m'animer d'une certaine manière, ce truc. Donc j'y suis allé.
Il y est allé et il a bien fait d'y aller parce que il montre que l'amour ne disparaît pas totalement après une séparation. C'est ce que vous disiez, Laurent, à l'instant. Cet amour évolue, subsiste différemment, bien sûr, notamment à travers les souvenirs, les liens familiaux, les enfants, oui, leur enfant en l'occurrence. Ils ont une fille en commun, la parfaite Céleste Brunkel, pardon. Et Fabien Gorgeard propose ainsi une vision apaisée et mature de l'amour, loin des clichés où l'attachement persiste sans forcément mener à une réconciliation. Il y a derrière un humour efficace, en tout cas c'est fort, et des situations parfois loufoques, c'est quoi l'amour ? Livre une réflexion également sur les familles recomposées, présentées ici comme capables d'équilibre et d'harmonie. Mais c'est pas souvent le cas. Et Fabien Gorgeard ne force jamais le trait et évite parfaitement les caricatures en particulier pour les nouveaux partenaires de vie. Souvent, quand il y a des familles, des couples, des familles recomposées, le nouveau partenaire ou du mari, ou de l'ex-mari, ou de l'ex-femme, est pas vraiment bien aimé, abordé, et en tout cas, c'est toujours et le plus souvent une caricature ou très intelligent, ou très idiot. Mais enfin, en tout cas, il y a jamais un joli compromis, et c'est le cas ici, en tout cas.
Il n'y a pas de gris, vous voulez dire? C'est noir ou blanc?
Oui, voilà, c'est noir ou blanc. Tandis que là, on comprend pourquoi l'une est allée avec lui, et lui est allé avec elle. Voilà.
Alors, on ne l'a pas précisé, mais c'est le personnage de Laure Calamy qui était avec Vincent Macaigne. Ils ont divorcé, et Vincent Macaigne veut se remarier avec Mélanie Thierry, qui est très croyante.
Laure Calamy, Marguerite, est maintenant avec Yes Salem.
Exactement.
En tout cas, le résultat, c'est que C'est quoi l'amour offre une belle réflexion sur l'amour sous toutes ses formes, entre couple, mémoire et famille.
Exactement. Petite revue de presse, je sais que vous êtes friand de ce genre de choses, vous adorez ça. Un état d'esprit, l'humour en plus dans cette chronique romanesque et familiale, selon le JDD. Première à bien aimer aussi, un film bien mené qui mêle amour, spiritualité et comédie. Télérama est positif aussi, un film tendre et gai avec une vitalité et une tendresse qui font un bien fou pour réfléchir à ce qui fait famille. C'est vrai qu'on a besoin d'un peu de tendresse et de vitalité en ce moment. Voilà, j'ai pas mis critique négative, j'avais envie d'être positif, donc voilà, il n'y a pas de critique négative sur ce film. À l'affiche aussi cette semaine, dans un tout autre style, comme on dit à la télé, pour le plaisir...
Sans transition.
Pour le plaisir, le film de Rem Kérissi avec Alexandra Lamy, François Clichy...
Elle dit rime.
Rime, qui est ici, avec Alexandra Lamy et François Cluzet. Et si on vous racontait dans ce film l'invention du siècle, un couple, une vérité qui explose, Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans, mais un jour un secret éclate, Fanny n'a jamais eu de plaisir. Et Tom, qui est lui ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux, créer l'objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Et ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu'émouvante, qui va transformer leur couple. Mais jusqu'où iront-ils ? Loin, très loin, assez loin, Louis-Marie. Vous n'avez pas chômé, vous avez rencontré François Cluzet, Alexandra Lamy et Rim Kérissi.
Et alors, il va y avoir justement un point commun avec les questions à poser aux réalisateurs. J'ai demandé à Fabien Gorgeard pourquoi c'est quoi l'amour. Évidemment, la même question pour Rim Kérissi. Pourquoi un film sur cette histoire qu'on... C'est vrai, comment a-t-on eu, peut-elle avoir eu l'idée de mettre en scène cette histoire vraie, hein, vous l'avez dit, cet ingénieur allemand qui a inventé un godemiché, c'est comme ça qu'on les appelle, pour que sa femme puisse prendre du plaisir. Eh bien, je vous propose d'écouter sa réponse.
Quand on m'a proposé le projet, j'ai dit non parce que je ne me voyais pas du tout parler d'un vibromasseur. Je suis d'origine d'une famille très conservatrice et très très pudique. Et je me suis posé la question de la raison pour laquelle je voulais entretenir ce tabou. Je me suis dit qu'en 2026, il était peut-être temps d'essayer d'en parler, mais d'en parler sous un angle qui me permettrait d'être quand même pudique, mais de prendre ma position de metteur en scène femme et d'essayer de libérer la parole des femmes sur un sujet de femmes, avec l'élégance d'une femme et avec le point de vue d'une femme. Et donc du coup, j'ai cherché l'angle de la femme qui est celui d'une femme qui n'a jamais connu l'orgasme, et d'un seul coup ça lève des questions. Pourquoi on ne connaît pas l'orgasme? Souvent à cause de la culpabilité qui vient de nous ou des générations précédentes, de notre éducation, et il est temps qu'on arrête de culpabiliser d'être à l'égal des hommes.
Et belle réponse que voilà, et comment s'est passé le cheminement dans l'esprit de Rim Kérissi pour arriver à réaliser ce film pour le plaisir. Alors, on parlait de questions, à savoir pourquoi faire ce film. Évidemment, la question était idéal est pratiquement la même pour François Cluzet et Alexandra Lamy. Pourquoi avoir accepté justement d'incarner à l'écran ce couple ? Et quand j'ai eu la chance de les rencontrer, leur façon de parler, leur façon d'être, eh bien, ils reproduisaient en quelque sorte le couple qu'on avait vu à l'écran. Écoutez la réponse de François Cluzet.
Nous, on a dit oui tout de suite.
Non, mais moi, ça m'a rappelé mon adolescence où vraiment, c'était une énigme. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais le corps d'une femme, c'était vraiment une énigme. On avait beau multiplier les conquêtes, certaines même un peu payantes, pour essayer de comprendre comment c'était fait. On avait beaucoup de mal, non pas sur l'anatomie, parce qu'on voyait bien, mais c'était où ça se passe. Parce que tout ça, c'est très invisible. Où ça se passe? Comment on fait? Finalement, c'était une question à non plus finir. Et finalement, c'est ça qui m'a vraiment interpellé. Parce que je me suis dit, mais voilà un sujet de paix. De paix, de concorde, d'univers, de monde heureux. Et puis pour finir, vraiment ce truc terriblement singulier. Parler d'un tabou sexuel, donc finalement révéler, mettre en lumière quelque chose qu'on met sous le tapis et rire avec.
Ben, vous voyez que finalement, c'est plus qu'une justification. Ben, finalement, il a été séduit par l'histoire et vous l'avez compris, l'histoire est remarquablement mise en scène, pardon, par Rim Kirissi. Ben, on écoute Alexandra Lamy maintenant, la femme du couple.
Quand Rim m'a appelé, qu'elle m'a parlé du sujet, j'avais déjà envie de dire oui. Et puis quand je l'ai lu, j'ai évidemment dit oui, pour des tas de raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup aussi le cinéma de Rim, parce que le cinéma de Rim aussi, c'est quelqu'un qui sait filmer la comédie. J'ai trouvé ça extrêmement élégant, il n'y a pas de choses malaisantes, c'est pas gênant, donc il n'y a pas de vulgarité, donc ça c'est aussi, c'était quand même très important. Et puis c'est une histoire d'amour dans un couple, c'est quand même très rare d'avoir cette histoire d'amour-là. En plus, quand elle me dit que c'est avec François, on se dit, bah oui, évidemment. Évidemment, c'était un bonheur. Donc là, ça coche toutes les cases pour dire, bah oui, il faut y aller.
Bah oui, alors vous comprendrez qu'ils vont très bien ensemble. Ils sont tout à fait crédibles et sont parfaitement ces deux époux. Alexandra Lamy, elle aussi entre authenticité et burlesque. Et alors que François Cluzet, lui, il est plutôt sur l'expressivité de son visage et la retenue des émotions. Mais... les deux marchent parfaitement bien ensemble. Et puis, cette alchimie, effectivement, montre combien elle est indéniable et le fait que le film fonctionne parfaitement bien. Alors, il y a des personnages secondaires, mais tout ce qui se passe entre les deux époux fonctionne, et c'est quelque chose auquel on croit, et il n'y a à aucun moment aucune vulgarité.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. C'est une comédie, mais qui n'est pas vulgaire.
Non, sujet, non. Oui, parce qu'avec un sujet pareil, ça aurait
c'est
pu,
pas lourdingue,
ça aurait pu devenir graveleux.
Ouais, voilà.
C'est pas
subtil,
le cas.
C'est subtil.
C'est plus malin, c'est plus subtil. Il faut dire qu'elle avait devant sa caméra deux acteurs remarquables qui ont bien compris le sens à donner à ce couple, et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une belle comédie. Comédie qui se laisse voir.
Oui, on peut se faire le combo, hein. C'est quoi l'amour, et après vous enchaînez pour le plaisir.
Oui.
Et pour le plaisir, c'est la chanson de Herbert Léonard, elle est dans le film ?
Non, pas du tout.
Et c'est quoi l'amour ? C'était aussi une émission de Carole Rousseau.
Ah, peut-être, oui. Ouais. Oui, à la télévision, exactement. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup de choses. Sauvons les meubles. Le premier film de Catherine Combe avec Vima Laponce et Johan Zimmer, c'est l'histoire de Lucille, une photographe reconnue. Et lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, il découvre que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses. Lucille et Paul comprennent alors qu'ils n'ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles. Alors, ce titre est à prendre sous différents angles. Hein. Sauver les meubles dans le sens de tenter de maintenir une unité familiale mise à mal, mais aussi au premier degré, hein, dans celui d'empêcher les créanciers de s'emparer des biens de cette demeure, la mère de Lucille ayant contracté secrètement une succession impressionnante de dettes pour tenir cette famille à flot. Voilà, une tragédie intime et économique sur fond de fin de vie, un film sensible, jamais glauque, où l'humour effleure en permanence. La mise en scène discrète est entièrement au service de son scénario et de ses comédiens, tous impeccables. Louis et Marie, vous n'avez pas chômé, je pense que vous aurez droit à une ice prime. Vous avez droit à une prime. Vous avez rencontré la réalisatrice Catherine Combe ou Cosme, je sais pas comment.
On dit Cosme.
Cosme.
Là aussi, elle dit Cosme.
Elle a été césarisée puisqu'elle est chef décoratrice pour l'inconnu de la Grande Arche. Elle a plusieurs cordes à son arc.
Elle a eu effectivement, là, au dernier César, le César de la meilleure déco pour l'inconnu de la Grande Arche. Et elle n'est pas seulement décoratrice, elle est aussi scénographe et metteuse en scène de théâtre.
Ouais.
Elle a un
d'avoir des journées bien remplies.
Oui, exactement. Une belle carte de visite, en tout cas. Et à ce propos, revenons toujours finalement, et c'est ça qui passe au travers de ces films tous différents, mais comment arrive-t-on à raconter une histoire pareille ? Et vous allez comprendre que pour Catherine Cosme, c'est beaucoup plus personnel.
Quand j'ai traversé ce moment, cette histoire, j'ai pas eu tout de suite envie de faire un film, et quoique, je me souviens que j'en ai parlé à des amis de ce qui m'arrivait en leur racontant, ben voilà, j'ai vécu ça, là, ma mère est partie très rapidement. Et en même temps, j'ai fait beaucoup rire mes amis et je les ai beaucoup émus. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va naître de cette histoire que j'ai vécue et de comment je l'ai racontée aussi à mes proches. Et donc, j'ai attendu quelques années. Et puis, pour un premier long métrage, il y avait un autre projet de film qui était déjà entamé et avancé en production. Et j'ai reculé en disant, non, mais ce ne sera pas celui-ci, ce sera Sauvons les meubles. Parce qu'en fait, comme vous le disiez, cette histoire de non-communication me paraissait essentielle, et surtout aujourd'hui, où je trouve qu'il y a tellement d'incompréhension parfois, tellement de difficultés à dire les choses, tellement de peur et tellement de non-dits, et ça me paraissait fort d'en parler maintenant, à mon âge aussi, avec la maturité quand même, et je me sentais beaucoup plus capable de défendre ce sujet là aujourd'hui.
Eh bien, elle défend le sujet, donc comment arrive-t-on à faire le deuil de quelqu'un qu'on aime et avec tous ces non-dits et finalement le motif du surendettement qu'on n'a pas souvent vu au cinéma, là non plus, devient une métaphore efficace d'un héritage plus profond, fait de culpabilité et d'incompréhension. Et tout repose sur les épaules de son interprète principal, Vima Laponce, qui est lucide, tendue, ambivalente, photographe de renom, et dont la rigidité masque mal la fragilité. Justement, pour elle, pour Vima Laponce, on se construit le plus souvent sur des failles.
Le film aussi dit tout constamment qu'on ne se construit pas sur du solide, on se construit sur des failles, des fissures, et le film se construit comme ça, et son évolution du deuil se construit comme ça, et qu'à la fin, elle est solaire, elle rit avec ses amis d'enfance, elle a changé de style vestimentaire, elle arrive même à peut-être être amoureuse d'un type gentil.
Et oui, donc Sauvons les meubles, c'est une œuvre en fait profondément sincère, portée par une vraie sensibilité, un regard juste sur les liens familiaux. Alors on pourra guetter ce que fera Catherine Cosme quand elle sera à nouveau derrière la caméra, mais étant donné, vous l'avez compris, qu'elle a plein de choses à faire et plein de spécialités, néanmoins, il y a quelque chose de prometteur dans ce film-là qui fonctionne remarquablement, et un film qui est, en tout cas, par son intermédiaire, c'est comme ça qu'elle le fait, comme ça qu'elle le présente, qui est capable de transformer une expérience intime en un récit universel, où ce que l'on tente de sauver, par exemple les meubles, sauver entre guillemets, dépasse largement les objets matériels.
À l'affiche aussi cette semaine, Mi Amor de Guillaume Niclou, qu'on peut voir au Régent à Saint-Gaudens, Cinque Secondi de Paolo Virzi à la BC Toulouse, Cosmos de Germinal Rao, l'américain cosmographe, The Criminals de David Mackenzie, on peut voir Mon Grand Frère et Moi de Ryota Nakano, bienvenue à Nakano, rappelez-vous, l'américain cosmographe, The World of Love de Gayoun Yoon, qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors ou à l'ABC à Toulouse, The New West de Kate Bickroft, qu'on peut voir au CGR Montauban Le Paris ou à l'Utopia Bordeaux Rouge, The Criminal David Mackenzie, ah, c'est un doublon, hein, on l'a déjà dit, on peut voir Mortal Kombat 2. Ah
oui, d'après ça, le jeu vidéo culte dont vous êtes friand, cher Laurent.
Oui, ça doit bastonner grave, ça, ouais, hein, Simon, de Simon McLeod. Et le documentaire de la semaine, ce sera Collapse face à Gaza d'Annette Ewan, qu'on peut voir à l'Utopia à Tournefeuille.
Choisir ce titre de The Clash, Police and Thieves, pour un film qui raconte l'histoire d'un braquage. Et oui, Police and Thief, police et voleur. Dans The Criminals, un film de braquage, vous savez, c'est un genre très particulier. Enfin, pas très particulier, mais en tout cas particulier. On a toujours beaucoup de sympathie pour les braqueurs. Est-ce que vous en aurez autant que David Mackenzie, son réalisateur? C'est à voir. En tout cas, on retrouve les Clash qui illustrent parfaitement bien ce qui se passe dans le film. Laissons la police poursuivre les voleurs pour aller justement dans un tribunal, celui des séries où l'on retrouve notre homme de loi, Grégory Com, qui va nous parler de Ken le survivant, sa résurrection, hein, un remake intitulé Fist of the North Star, au couteau no Ken, qu'on peut voir sur Prime Video.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vous parle aujourd'hui du remake d'une série culte, d'un animé culte du Club Dorothée, mais pas que. Je vous parle de Hokuto no Ken, Ken le survivant, et de sa version 2026. Alors, ça parle de quoi, Ken le survivant de base? Alors oui, je donne le nom français parce que beaucoup de gens doivent se souvenir sous cette appellation. On se souvient qu'à l'époque, le Club Dorothée avait acheté énormément de mangas d'animés japonais, certains tous plus violents les uns que les autres, et ils nous ont balancé tout ça à des heures de grande audience des enfants. Bon, je fais partie de ces enfants qui ont regardé le Club Dorothée, comme vous en doutez, je m'en suis sorti, je suis à peu près normal. Mais il est vrai que Hokuto no Ken, Ken le survivant, était d'une rare violence, et donc... D'un côté, c'est connu, on avait le doublage français qui rendait les scènes un peu ridicules pour adoucir la violence et beaucoup de censure, ce qui fait qu'on se retrouvait avec des épisodes parfois de 10 minutes, 12 minutes, tellement que c'était découpé dans tous les sens. Alors pourquoi nous n'aurions jamais dû voir cet animé? C'est ce qu'on appelle un seinen, c'est-à-dire c'est un animé pour adultes et non pour jeunes enfants. Mais cet animé, il est devenu culte en France, aussi pour son doublage, hein, comme Nicky Larson, l'adaptation française de City Hunter a été édulcorée. C'est devenu culte pour ça, mais au final, nous n'avons jamais eu vraiment la vraie œuvre Hokuto no Ken et le vrai message. A été annoncé un remake en 2026 et il est désormais disponible sur Prime Video. Et il a fait couler beaucoup d'encre avant de sortir. Pourquoi ? Parce qu'il est en CGI, en images, en mélange d'images de synthèse et de dessins. Et je suis le premier à souvent conspuer cette méthode. Et j'étais le premier à me plaindre lors de la vision du trailer en me disant « Mais ils ont dénaturé mon Ken le survivant. » Alors, il faut être honnête. Déjà, il est vrai que le manga Hokuto no Ken est... assez magnifique en termes dessin, surtout vers la fin, hein, il s'améliore de plus en plus. Et le style années 80-90 de l'animé d'origine était intéressant, mais aujourd'hui assez lent à regarder et les animations assez mauvaises. L'intérêt d'être passé dans une animation en CGI, c'est que on est sur une animation de grande qualité, les combats sont extrêmement lisibles et au final... Même si au départ ça fait un peu bizarre, j'avoue aimer ce design, c'est honteux, mais oui, je trouve ça assez réussi. Donc en fait, il ne faut pas bannir les CGI, il faut l'utiliser à bon escient, et dans le cas d'Hokuto no Ken, ça marche plutôt bien, même s'il y a quelques petits défauts. Mais surtout, ce qui est intéressant pour ceux qui n'avaient pas pu découvrir en VO à l'époque, c'est d'avoir la VO officielle de Quel ne survivant, et donc d'avoir la vraie histoire. Parce que souvent, on résumait Quel ne survivant par des attaques folles, des têtes qui explosent. Alors ça y est toujours, hein, c'est un animé extrêmement violent réservé aux adultes. Mais il y a un vrai message, parce que le scénario de base, c'est une humanité qui a été décimée par une guerre nucléaire et qui tente de survivre. Et c'est une quête d'espoir avec le personnage de Kenshiro, donc Ken en version française, donc de Kenshiro, qui se balade dans le No Man's Land et qui, à la force de ses poings, amène une sorte de justice, certes expéditive, très années 90, mais qui tente aussi d'une certaine façon de redonner espoir à une population qui voit son monde complètement détruit. Et c'est là toute la finesse et toute la beauté de cet animé, c'est de nous redonner le message de base de l'œuvre, qui est un message universel, un message dur, mais un message beau. J'ai même envie de dire, vous me direz, que c'est un message existentialiste. Vous voyez, je vous cite le mouvement de Jean-Paul Sartre. C'est en fait, et oui, parce que Okuto no Ken, c'est du Jean-Paul Sartre, je dois vous le dire. C'est de voir le monde dans sa décrépitude, dans son horreur la plus absolue, pour se rendre compte qu'au final, nous sommes maîtres de notre destin et que nous pouvons amener une certaine lueur dans cette obscurité. C'est le message que délivre Okuto no Ken, et cette adaptation le délivre parfaitement. Donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est précieux, et si vous avez plus de 18 ans, je vous conseille vraiment de regarder Okuto no Ken sur Prime Video, ça vaut vraiment le coup. Je vous remercie.
Vous l'avez compris, cette série, cet animé est destiné à un public adulte, et il n'a pas manqué de le souligner, notre homme de loi des séries.
Il a même fait le lien entre Sartre et Ken Survivant. Ah,
formidable.
Il fallait trouver.
Voyez, il est... que dans N'oubliez pas l'ouvreuse qu'on entend.
Ah, ça, c'est
formidable.
Et ça ne peut être que Grégory Com qui dit ça.
Ah, est fort.
Bon, alors, Fist of the North Star, Okuto no Ken, est à voir sur Amazon Prime.
Dis donc, ça doit faire un bout de temps que ce machin est dans la glace.
Ouais. L'effet éventail des rétro-radiations l'a fait remonter. Mais le processus est lent, pratiquement insensible. Je dirais que l'enveloppe de glace qui l'entoure a au moins 100 000 ans.
Et les Norvégiens l'ont fait sauter.
Ouais.
Vous avez reconnu le film de John Carpenter, sorti en 1982, de Sing. Alors c'est intéressant d'avoir là le titre québécois, parce qu'eux, ils traduisent tout, l'effroyable chose. Et oui, ben voilà, tout est dit, hein. Ce qu'ils ont trouvé dans la glace, c'est un parasite extraterrestre. Ils sont dans la glace de l'Antarctique, hein, vous l'avez compris. Et ça va mal se passer pour eux, pour tout le monde, et il vaut mieux arrêter cette chose diabolique, sinon elle risque de mettre en péril l'humanité entière. The Thing, le film de Carpenter avec Kurt Russell, Tiki Carter, Wilford Brimley, est à voir dimanche 10 mai à 19h30 dans sa version originale au cinéma Pathé Labège. Et si vous restez au cinéma Labège, mais alors il faudra venir le lundi 11 mai, on vous laissera pas passer la nuit là-bas, vous verrez à 19h45, La Cité des Enfants Perdus de Jeunet et Caro. C'est un film de 95, là aussi dans cet univers très particulier que décrivaient ces deux cinéastes, un univers que seul pouvait avoir imaginé. En tout cas, c'est la dernière collaboration de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Jeunet continuera à tourner. Marc Caro, ben, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on le déplore. Si vous avez de ces nouvelles, prévenez-nous. Hein, cinéma@radioprésence.com, La Cité des Enfants Perdus, Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, lundi 11 mai à 19h45. Vous filerez au Pathé Wilson pour continuer à avoir avec Ben Hur les films qui ont été couronnés par les Oscars et qui ont en particulier reçu l'Oscar du meilleur film, il y a un film de 65 hein, qui est venu un petit peu après quand même Ben Hur, La Mélodie du Bonheur. Alors, c'est extraordinaire, Robert Wise, Julie Andrews, magnifique, Christopher Plummer, Richard Hayne. Il y a que du beau, que du bon, et le film est à voir en VO lundi 11 mai à 14h. Et un film, c'est pas le film qui révéla cet acteur, mais en tout cas qui a assis sa notoriété, c'est Sidney Poitier qui est au générique de Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison avec Rod Steiger et Warren Otis qui complète la distribution, où Sidney Poitier est un agent du FBI, un policier, je sais pas s'il est vraiment du FBI, mais toujours est-il qu'il est dans cette gare perdue, fond du sud, à attendre un train.
Vigil Tibbs.
Et qu'un meurtre vient d'être commis, et évidemment, il est le premier accusé.
Et oui, c'est
Il a été d'ailleurs le premier acteur noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Hein. En 64, c'était pour le Lys des Champs.
Oui, alors là, c'est Rod Steiger qui l'a obtenu l'Oscar dans ce film-là, Dans la chaleur de la nuit. Allez, vite, une dernière chose à vous dire sur les reprises, des reprises à ne pas manquer. Alors là, c'est à la Cinémathèque, il y a le fameux Modestie Blaise de Joseph Losey, c'est une aventurière, Modestie Blaise, qui a les facultés de changer de look en un claquement de doigts. C'est pratique. Oui, hein. Et donc, elle est recrutée par les services secrets britanniques. Et évidemment, elle va avoir quelques difficultés, quelques problèmes. Joseph Losey, 66, c'est la Cinémathèque là qui vous propose ce film demain, jeudi 7 mai à 19h. Et puis alors, un film, s'il en faut, cultissime, c'est Le Voyage Fantastique. Le fameux film de Richard Fletcher où un l'équipage d'un sous-marin, ils sont cinq, est réduit à la taille d'un microbe injecté dans le corps d'un homme qui souffre d'une hémorragie et qu'il faut sauver. Alors, c'est extraordinaire. Il faut avoir vu, et ça va vous marquer, l'attaque des anticorps. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils attaquent... Non, on va pas vous dire qui ils attaquent. Si, on vous le dit.
Si.
Si, on vous le dit qui ils attaquent. Ils attaquent Raquel Welch. Et puis, il faut les arracher de son corps. Alors, on se demande comment ils font.
Un petit corps un peu vicieux quand même.
On se demande comment ils font pour pas arracher la combinaison de Raquel Welch. Ils ne l'arrachent pas. Hein. Il y en avait.
Alors que nous, on voudrait qu'ils l'arrachent.
Des petits malins. Oui. Quand je l'ai vu, j'étais un petit peu frustré la première fois. Je vous dirai pas quand. Et on peut voir le film dès 9 ans, samedi 9 mai à 16h. Voilà les reprises sur le grand écran. Laurence, c'est à vous.
Le cinéma, la télévision, garantissant football, ça commence ce soir sur Arte à 21h avec Douleur et gloire de Pedro Almodovar, une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d'autres par le souvenir dans la vie du réalisateur Salvador Malio. Dans cette heure de cinéma, Almodovar se dévoile comme jamais et trouve en Antonio Banderas un émouvant alter ego. Vendredi, France 4, 21h, Decision to Live de Park Chang-woo. En Corée du Sud, un mystérieux crime met en émoi la police. L'enquête est confiée à Ah Jun. Très vite, ce dernier commence les interrogatoires. Et dès sa rencontre avec l'épouse du défunt, il doit faire face à des éléments perturbants. Dimanche, France 2, 21h, ce sera La Nuit du 12, encore un polar de Dominique Moll avec Bastien Bouillon et Pauline Lamers. La Nuit du 12 octobre, Cara, 21 ans, quitte une fête alors qu'elle rentre à pied. Un homme encagoulé l'interpelle avant de l'arroser d'essence et d'y mettre le feu le lendemain matin. L'inspecteur Vives est appelé sur le lieu du crime, un thriller matiné de psychologie. À revoir. Lundi, France 3, 21h, là aussi à revoir, ce sera No Country for the Old Man, des frères Coen, avec Tommy Lee Jones et Javier Bardem, dans ce polar virtuose, traversé d'humour noir, le mal absolu vient incarné par un Javier Bardem effrayant et impeccable. Une superbe réussite. Le conseil de lecture, ce sera La musique de film chez Quentin Tarantino, de Philippe Roure. Pour moi, les films et la musique vont de pair. Quand j'écris un script, l'une des premières choses que je fais est de trouver la musique que je vais jouer pour la séquence d'ouverture, dit Quentin Tarantino. Journaliste et réalisateur, Philippe Roure livre un travail minutieux et fascinant sur l'univers musical baignant l'œuvre cinématographique de l'un des plus grands réalisateurs et les plus doués de sa génération. Donc La musique de film chez Quentin Tarantino, vous le retrouvez aux éditions Hugo pour 20 euros. Tenez Guillaume, je vous l'offre. Et voilà pour le cinéma et la télévision
beaucoup
cette semaine.
Mais vous savez qu'avec un bon agent, en 3 mois, on monte une tournée, hein.
Ces canaux mènent au même endroit. Les poumons.
Docteur, rendez-vous compte. Nous sommes les premiers humains à réellement voir ce spectacle.
Les phénomènes vitaux.
Vous ne voulez pas m'expliquer un peu ce qui se passe?
Oh, c'est un simple échange, Monsieur Grant. Les globules, libérant l'acide carbonique, se rechargent en oxygène, arrivant de l'autre côté.
En quelque sorte, ils font le plein.
L'oxygénation.
Nous savons que cela existe, bien que personne ne l'ait jamais vu, comme la structure d'un atome. Mais aujourd'hui, nous le voyons.
Et on le voit, et on le voit remarquablement bien.
On l'imagine avec Raquel Welch.
Ah oui, oui, oui. Vous rendez-vous compte quand même, le film a fait des effets spéciaux extraordinaires. On était en 65 pour arriver à faire des artères, les artères 13 mètres de diamètre. 13 mètres de long, pardon, sur 3 mètres de diamètre, un cœur de 45 mètres sur 10, un cerveau de 70 mètres sur 33, ben oui, il fallait qu'on croie qu'on était vraiment dans le corps humain. Oui, c'est extraordinaire, non? Hein, ça vous a donné envie. C'est samedi 9 mai, hein, à 16h, et dès 9 ans, alors allez-y en famille, ça vaut le coup.
I was looking for somebody I could lay on every now and then. Now that I found that somebody.
Paula Stellar a composé cette chanson pour le film de Fabien Gorgeard, C'est quoi l'amour? Allez messieurs, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, ce sera pour C'est quoi l'amour, Pour le plaisir et au Pâté Wilson, Revoir dans la chaleur de la nuit.
Sauvons les meubles, C'est quoi l'amour, Pour le plaisir et puis au Pâté Wilson, et évidemment revoir Ben Hur.
Ah oui, moi j'ai un cœur tellement gros que j'en ai plein des coups de cœur, plein, j'ai un cœur gigantesque. Sauvons les meubles, C'est quoi l'amour, Pour le plaisir, Les Criminals, parce que c'est un beau film de braquage, et puis évidemment Le Voyage Fantastique. Merci messieurs.
Merci.
Merci à vous.
Bonne soirée.
La semaine prochaine, on sera sur la croisette. Allez.
Ben en costard.
Oui. En costard, bien sûr, en tenue de soirée avec l'ouvreuse. Salut.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.